Et à quoi rêvent les dragons barbus? Question essentielle posée aujourd'hui à la une de la science.
Oui Mathieu, essentiel car le sommeil et son évolution dans le règne animal sont des sujets très mal connus. L'équipe Sommeil du Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon s'est donc intéressée à deux espèces de lézards. Ils montrent que comme les mammifères et les oiseaux, les reptiles possèdent deux états de sommeil qui auraient pu apparaître chez nos ancêtres il y a 350 millions d'années. On en discute avec vous, Paul-Antoine Libourel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur de recherche pour le CNRS au sein de cette équipe Sommeil à Lyon et c'est vous qui avez mené ces expériences. Alors pour commencer, je voulais vous demander comment est-ce qu'on étudie le sommeil des lézards? Est-ce que vous leur mettez des petits casques sur la tête comme on le fait avec les hommes?
Eh ben, en fait, curieusement, c'est exactement ce qu'on fait. Mmh. Alors, on regarde un peu plus de paramètres que ce qu'on peut regarder classiquement chez l'homme, notamment toute la recherche comportementale qui pourrait y avoir dans le sommeil. Le sommeil comportemental, on peut l'identifier par une position, par un seuil de réveil plus élevé, une réponse à une privation. Donc, c'est tous des critères qui nous permettent d'identifier le sommeil. Mmh. Et en plus, effectivement, on enregistre l'activité cérébrale, la fréquence cardiaque, le tonus musculaire, le mouvement des yeux, tout comme on pourrait le faire en médical.
Oui, c'est très complet. Alors, est-ce que vous vous attendiez à trouver deux phases de sommeil comme pour l'homme ou pour les mammifères?
Alors, en fait, on a commencé les études là-dessus sans trop d'a priori. Quand on regarde la littérature qui a commencé essentiellement dans les années 70, au moment un peu après qu'on ait découvert le sommeil paradoxal et le sommeil, les deux types de sommeil, quand on regarde ce qui a été fait chez les reptiles, lézards, crocodiles et tortues, c'est pas très très clair. Du coup, en fait, on est parti sans a priori et on a essayé de regarder naïvement tout ce qu'on pouvait enregistrer pour essayer de voir si effectivement il y avait un ou deux états, s'ils étaient pareils, différents de ce qu'on pouvait trouver chez les mammifères.
Mais pourquoi est-ce que c'est crucial l'histoire de un ou deux états alors ?
Classiquement, dans les années 50-60, il y a eu des recherches chez l'homme puis chez le chat qui ont démontré qu'il y avait deux états de sommeil chez les mammifères, du coup, avec un état qu'on appelle plutôt sommeil lent, parce que l'activité cérébrale se ralentit et amplifie, et un état de sommeil paradoxal, qui a été nommé sommeil paradoxal par Michel Jouvet, sur Lyon d'ailleurs, parce que paradoxalement, l'animal est endormi, mais il a une activité cérébrale qui ressemble à l'éveil. Et cet état est plutôt un état de sommeil actif. Quand on voit un chien en sommeil paradoxal, on a tout de suite l'image des mouvements des yeux, des mouvements des moustaches, des pattes qui bougent. Et en étudiant cet état, on l'a retrouvé aussi chez les mammifères. Et les mammifères et les oiseaux partageant un ancêtre commun avec les reptiles, on s'est posé la question de voilà, si ça existait chez ces animaux.
Alors pour le lézard, on parle de sommeil lent et paradoxal aussi ?
C'est pas aussi clair. En fait, on a utilisé cette définition chez les mammifères. Du coup, en la cherchant chez les oiseaux, on a retrouvé quelque chose qui ressemblait, avec des ondes lentes et un sommeil paradoxal avec des mouvements oculaires. Chez les reptiles, on n'a pas trouvé ça. Et du coup, la question c'est est-ce qu'on peut le nommer de la même façon alors qu'on n'a pas forcément quelque chose qui ressemble. C'est toute la difficulté de travailler sur des animaux qui ont un mode de vie, une organisation cérébrale qui peut être différente et du coup qui peut peut-être avoir des signatures de ces états qui ne ressemblent pas forcément à celles des mammifères.
Alors, le fait que les oiseaux, les mammifères et donc là, les reptiles partagent ces deux phases de sommeil, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'évolution dans le vivant ?
Alors, globalement, il y a deux hypothèses. Si on a trouvé du sommeil lent et du sommeil paradoxal, si on continue à les appeler comme ça, chez les mammifères et chez les oiseaux, on va se poser la question de ce qui est arrivé à leurs cousins, les reptiles, qui ont, je le répète juste, un ancêtre commun. Donc, ça veut dire qu'ils descendent tous de la même, du même animal. Ouais. On peut se poser la question, s'il n'y en a pas chez les reptiles, ça voudrait dire que ces deux états sont apparus avec le mode de vie actif, avec l'apparition du sang chaud ou de l'homéothermie, de la régulation de température. Et du coup, peut-être que qu'il y existe un lien direct entre ce mode de vie et l'existence de ces deux états. Alors que si ça existe chez des animaux à sang froid, donc les reptiles qui ont un ancêtre commun, ça va changer notre façon de voir ou nous permettre de voir ce sommeil d'une façon différente. Et globalement, si on identifie deux états chez les reptiles, les mammifères et les oiseaux, ça voudrait dire que l'ancêtre commun, lui aussi, avait ces deux états de sommeil.
Donc, ça veut dire qu'on remonte beaucoup plus loin dans l'arbre du vivant. Est-ce qu'il y a des animaux qui ne dorment pas du tout ou très très peu ?
Alors, globalement, on pense que tous les animaux dorment. Après, il a été rapporté des animaux, comme des poissons cavernicoles, qui rapportaient des phases d'activité constantes. Après, est-ce que ça veut dire qu'ils ne dorment pas ? Ça devient un petit peu compliqué. Est-ce que, par exemple, les mammifères marins font du sommeil unilatéral ? Donc, c'est une adaptation qui leur permet de dormir et d'être quand même éveillés en même temps. En fait, la question est assez compliquée.
Et d'ailleurs, on le voit aussi dans votre étude, parce que vous avez étudié deux espèces de lézards et le sommeil est très différent déjà chez ces deux espèces.
C'est exactement ça. On a répliqué une étude qui avait été faite en 2016, qui avait montré que chez le dragon barbu, donc un lézard australien, on avait une alternance entre deux états cérébraux. Un état où il y avait des ondes cérébrales lentes et de basse fréquence, qui faisait penser au sommeil lent, qui alternait avec une phase d'activité cérébrale qui ressemblait à l'éveil. Et pendant cette période, il y avait quelques mouvements oculaires faisant penser au sommeil paradoxal. Donc nous, dans notre étude, on a répliqué ces données-là qui confirment bien cette façon de dormir de ce dragon barbu. Et on a enregistré un autre lézard d'une autre famille. Et en fait, de façon assez curieuse, on n'a pas du tout retrouvé la même chose. On n'a pas ces ondes lentes, on n'a pas cette alternance extrêmement régulière. Du coup, on a identifié des différences entre les deux lézards assez importantes.
Alors Paul-Antoine Libourel, pour terminer, il faut qu'on vous pose cette question. Est-ce que vos résultats permettent de penser que les lézards rêvent alors?
Ah oui, ça, on veut savoir absolument.
Moi, j'aimerais encore bien savoir, je vais peut-être vous décevoir. Ce qui se passe, c'est qu'on a identifié deux états, dont un partage des caractéristiques avec le sommeil paradoxal des mammifères. Et c'est pendant ce sommeil paradoxal qu'il y a la majorité des rapports de rêve chez l'humain. Le problème, c'est que les lézards, ils ne se sont jamais réveillés en me racontant à quoi ils avaient pensé. Ah. Du coup, on n'est pas arrivé à savoir.
C'est une réponse de scientifique normand.
Ils ne coopèrent pas bien, les lézards. Paul-Antoine Libourel, merci beaucoup. Oui. Merci en
merci
tout cas.
Merci à vous.
Et bravo pour vos recherches. Merci à vous et Axel, on se retrouve demain.
À demain Mathieu.
Allez, dans le réseau de l'actualité scientifique, un tiers des substances chimiques utilisées en Europe ne sont pas conformes à la réglementation. L'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, l'équivalent de l'ANSES en France, épingle les industriels de la chimie. Après 3 années d'enquête, leur rapport est accablant. Pour les experts, les fiches d'évaluation fournies par les industriels sont insuffisantes, voire trompeuses pour 32% des substances. Pour le Bureau européen de l'environnement, ce sont des résultats effrayants qui montrent que les industriels violent les lois européennes pour des centaines de substances. 4 planètes géante de la taille de Jupiter autour d'une jeune étoile, il n'en fallait pas plus pour poser des problèmes aux planétologues. Ce système planétaire nommé CITO, identifié par le télescope ALMA, est unique en son genre. Selon les modèles actuels, il est normalement très rare, voire impossible, de former de si grosses planètes longues justement à se former autour d'une étoile si jeune. Une nouvelle découverte qui va donc permettre de revoir certaines théories. Et puis pour terminer, un chewing-gum électrique qui titille votre langue pour maintenir son goût. Ce nouveau bonbon prototype et sans douleur, précise les inventeurs, a été mis au point par des Japonais. Il utilise l'effet piézoélectrique, une capacité qu'ont certains matériaux de générer de l'électricité lorsqu'ils sont comprimés ou déformés. Lorsque vous le malaxez, il lâche de toutes petites décharges électriques qui excitent vos récepteurs sensoriels. Pour le moment, le goût de ce chewing-gum est soit salé, soit amer. Mais les chercheurs essayent de faire varier l'intensité électrique pour trouver d'autres goûts.